I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. À l'heure du confinement, Histoire de succès continue avec des interviews à distance. Désolé d'avance pour la qualité du son, sans doute un peu moins bonne qu'habituellement, mais je suis heureux de pouvoir continuer malgré tout à vous offrir des interviews dans cette période. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Théo Dumont, plus connu sous le pseudo de Felken. Théo est l'un des meilleurs joueurs mondiaux dans le petit monde de Hearthstone, le jeu de cartes développé par Blizzard, éditeur de jeux vidéo et notamment du fameux World of Warcraft dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Ensemble, on revient sur le parcours de Théo qui nous raconte que dans sa jeunesse, il a dépensé son énergie plutôt dans le sport que dans les jeux vidéo. On est donc assez loin du cliché du gamer qui mange des chips et qui boit du coca avachi devant son écran d'ordinateur. Il m'explique également comment il a petit à petit assumé, face au monde extérieur et à ses parents, son job assez peu connu et reconnu jusqu'ici. Il faut dire que joueur professionnel de jeux vidéo, ça fait pas très très adulte au premier abord. Ceci dit, il explique que l'argent gagné jusqu'ici en tournoi officiel, un peu plus de 100 000 dollars quand même, a sans doute aidé à donner un peu de sérieux à ce projet. On parle de plein de choses dans cet entretien, j'espère qu'il vous plaira, qu'il vous permettra de découvrir l'univers du stream et de Hearthstone, et un grand merci à Felken pour sa transparence et sa disponibilité. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez mettre un commentaire sur www.histoiredesucces.com. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Mais d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Théo. On est avec Théo, salut Théo.
Bonjour.
Théo, t'es aussi connu sous le pseudo de Felken sur la scène d'Hearthstone. Hearthstone qui est un jeu de cartes qui est édité par Blizzard. Dis-moi si je dis des conneries, mais après.
Non, pour l'instant tout va bien.
Donc Blizzard qui est l'un des très gros éditeurs de jeux et notamment qui avait sorti le fameux MMORPG World of Warcraft qui leur a permis, je pense, de vraiment décoller à l'époque. Ils ont sorti il y a, je pense, 5-6 ans ce jeu qui s'appelle Hearthstone, qui est un jeu de cartes à la base, auquel on joue sur son ordinateur ou sur tablette ou sur console. C'est un jeu, alors moi déjà, à titre perso, je me fais un peu un kiff là, parce que c'est un jeu auquel je joue depuis super longtemps, vraiment. Et en fait, je suis un petit peu la scène de l'e-sport, parce que tu vas nous raconter un petit peu ce que c'est, parce que t'es le premier e-sportif qu'on reçoit dans ce podcast. Donc tu vas expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et puis t'es l'un des tout meilleurs joueurs français aujourd'hui. T'es quoi? T'es professionnel? Est-ce qu'on peut dire que t'es professionnel? T'es semi-pro? C'est quoi exactement?
C'est un peu particulier mon statut par rapport à certains d'autres joueurs, parce que par rapport à d'autres joueurs qui sont à fond dans la compétition uniquement, il y a le côté un peu commentateur. Ouais. C'est un peu l'intérêt qu'on peut avoir en étant à la fois du coup joueur et commentateur. C'est par rapport à un sportif traditionnel, ce qui est plus compliqué. Nous, quand on est éliminé de la compétition ou quand on ne participe pas à la compétition, on a une chaîne sur Internet où, ouais, où on commente, et justement l'idée c'est d'avoir des joueurs qui sont plutôt bons afin d'être compétents dans le cast, tout simplement.
Alors on l'expliquera un petit peu après, mais tu fais partie de cette équipe qui s'appelle Solary et qui effectivement est à la particularité d'être à la fois une chaîne Twitch hein, qui a une chaîne Twitch et qui est en gros qui diffuse du contenu sur la chaîne, mais qui a aussi une équipe d'e-sport sur différents jeux, quoi, c'est ça?
C'est ça, du coup l'idée de Solary c'est vraiment ça, d'avoir des joueurs assez forts pour pouvoir se débrouiller en compétition, mais toujours de garder cet aspect entertainment, etc.
Ok. Donc, la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, à quoi ressemblait Théo quand il avait 7-8 ans?
Oh, 7-8 ans, du coup, ouais. C'est quoi? C'est CE1, un truc comme
ouais,
ça?
CE1, CE2, ouais.
Ouais, du coup, à l'époque, j'ai toujours fait beaucoup de sport, je suis quelqu'un d'assez énergique, et ouais, du coup, c'était le moyen qu'ont trouvé mes parents pour me canaliser, on va okay dire. C'était pas de tout repos de me garder quand j'étais petit. Et du coup, à cette époque-là, je faisais de la capoeira, donc
ah ouais,
un art martial brésilien.
Okay.
C'est un mix entre art martial et danse, pour ceux qui connaîtraient pas, qui était à l'époque utilisé par les esclaves au Brésil, qui n'avaient pas le droit de se battre. Et du coup, c'était la danse mêlée au combat.
Ok.
Et donc c'était un espèce de défouloir. Et à côté de ça, je jouais à la Game Boy, pour revenir sur le côté gamer, mais pas, j'ai jamais été forcément quelqu'un qui jouait énormément. Mes parents ont insisté quand j'étais petit pour m'ouvrir à pas mal de choses. Donc, que ce soit le cinéma, ils insistaient pour que je lise, on allait de temps en temps au musée, etc. Mais l'idée, c'était vraiment leur but, c'était d'essayer de me faire découvrir plein de choses et de voir derrière moi ce que j'appréciais pour essayer de plus développer là-dedans.
Ils font quoi tes parents comme métier?
Ma mère est banquière.
Okay.
Pour pas en particulier, plus pour des grandes entreprises.
Okay.
Et mon père, ça a toujours été la question compliquée quand j'étais à l'école. J'ai jamais, tu sais, tu dois écrire à chaque fois le métier de tes parents.
Ouais.
Et mon père, ça a toujours été, il me disait, mais consultant informatique. Donc, ça a toujours été un grand flou. Même à 24 ans maintenant, je ne saurais pas exactement t'expliquer. Du coup, je répète, consultant informatique.
Je pense qu'il va dans des entreprises pour donner des conseils, c'est ça?
On va dire pas. Ça.
Ok. Et donc ouais, effectivement, ils ont voulu t'ouvrir. T'avais quand même le droit de jouer aux jeux vidéo. T'avais quand même le droit d'avoir une Game Boy, c'est ça?
Ouais. Par contre, à cet âge-là, c'était limité à une heure par jour.
Ok. D'accord. Et comment ça se passe après ta vie au collège, plus tard, un peu plus tard?
Changement de sport, du coup.
Ouais.
Sur du judo à ce moment-là.
Ok.
J'en avais fait un peu avant. J'ai fait une pause qui a duré à peu près tout l'école primaire. Donc,
ok.
J'ai repris à partir de CM2 6e. Donc plus sur du judo. J'aime vraiment beaucoup faire du sport, c'est important, du coup c'est pour ça que j'insiste un peu dessus.
OK.
Et c'est vraiment le moyen de pas être une pile électrique.
Donc t'es loin du cliché du gamer qui reste toute la journée devant son écran et qui...
Ouais, c'est ça, le gars qui mange des chips en jouant à WoW, t'en parlais, c'était pas vraiment ça. Et sinon, ouais, j'étais pareil, j'aimais beaucoup lire, c'était à le moment où il y avait tout ce qui était, je crois que c'était Harry Potter 7 qui venait de sortir, donc j'étais un peu dans cet univers un peu fantasy,
okay,
qu'on retrouve beaucoup dans les jeux vidéo finalement, donc c'est ça qui m'a raccroché. Et je pense que c'est à peu près à ce moment-là où c'est le moment où j'ai mis le pied vraiment dans le gaming un peu plus poussé sur les vidéos YouTube, c'est ce qui est devenu à la mode. Je sais pas si tu vois les vidéos à l'époque, il y avait des sur Minecraft, ce genre de trucs.
Ouais.
Où des mecs finalement font plus ou moins ce que je fais actuellement, se filment en train de jouer aux jeux vidéo, mais du coup en VOD au lieu d'être en direct.
D'accord. Et tu suivais qui exactement comme chaîne à l'époque?
Ah, du coup c'était Hey Pierre, je sais pas si ça te parle.
Non, pas trop.
Il y avait
pas trop
Bob
suivi
Lennon,
la scène
Fantasio 974. Si les gens qui connaissent ce milieu-là, du coup c'est des noms qui sont qui doivent être leur parler.
Ouais.
Mais j'avoue que sinon c'est un milieu un peu obscur.
Donc surtout sur Minecraft, c'est ça?
C'était le truc que je regardais. Après, c'était des gens qui faisaient des vidéos sur Minecraft et qui, quand il y avait des jeux, ce qui est important, qui sortaient, avaient tendance à, du coup, se pencher dessus.
Okay.
Et faire 2-3 vidéos, voir si ça leur plaisait, peut-être pousser. Et c'est par ce biais-là, du coup, que derrière, j'ai découvert Hearthstone.
Ah ouais, c'est quoi le pont entre Minecraft? Ah, c'est par les chaînes YouTube, c'est ça que...
C'est juste les chaînes YouTube qui, Hearthstone venait de sortir, ils avaient des clés bêta ou je ne sais quoi. Et du coup, je les ai vus faire le tuto et je trouvais ça plutôt cool. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais quand j'étais plus jeune aussi, j'ai fait pas mal d'échecs. C'était un truc qui me parlait bien. Et du coup, ce côté un peu stratégie, etc., ça m'a tout de suite attrapé. Donc, sur le coup, j'ai pas pu commencer directement à jouer. J'ai dû attendre parce que le jeu était pas ouvert à tous. C'était plutôt les gens qui pouvaient justement diffuser du contenu et donner envie à d'autres de jouer qui avaient la possibilité. Et le jeu, il me semble, est sorti en 2014, quelque chose comme ça.
Ça doit être ça, ouais.
Et du coup, c'est le moment où le jeu est sorti, j'ai commencé un peu à jouer.
Et tu jouais pas, et de ce fait-là, tu jouais pas à Minecraft?
Non.
Okay.
C'est un peu bizarre parce que c'est vrai que j'ai beaucoup
juste,
aimé regarder les vidéos, mais finalement, j'y ai jamais joué.
Ouais, mais je pense que c'est tout comme tu peux regarder un sport à la télé sans le pratiquer pour autant, quoi, tu vois.
C'est ça, c'est vrai que même pour faire le parallèle avec l'e-sport, c'est quelque chose qui peut paraître assez obscur aux gens, mais quand tu dis aux gens, pourquoi vous regardez du foot plutôt qu'en faire vous-même?
Ouais.
Et les gens répondent parce qu'ils sont meilleurs et que c'est plus intéressant à regarder. Et finalement, c'est un peu la même chose pour les jeux vidéo, finalement. Quand les gens arrivent à faire des choses que toi, tu n'arrives pas à faire, c'est assez amusant.
C'est ça. Bah, moi, j'avais vu, alors je sais plus, c'était il y a quelques années, sur Canal+, où, alors Canal+, qui est historiquement la chaîne où on passait le foot à tire-larigot, il y en avait énormément à l'époque, et ils étaient un peu dédaigneux de l'e-sport en disant, mais c'est quoi l'intérêt de regarder des mecs qui sont en train de jouer? Alors que Canal+ était eux-mêmes en train de diffuser à balles et payer une blinde pour passer la première division, la Ligue 1 de football, quoi. Je me disais, mais vous êtes complète, enfin, il y a un truc que vous avez pas compris là-dedans. En fait, c'est exactement la même démarche, quoi.
J'avoue qu'il y a quelques années, justement, quand j'ai démarré dans ce milieu-là, le regard des gens avait tendance à plus... j'étais plus concerné, disons, par le regard des gens. Et maintenant, je me détache un peu plus de ça.
Okay.
Et je me dis que c'est juste une question de génération et que, bah, en effet, ça peut pas parler à tout le monde. Et c'est comme ça. Et il y en a qui apprécient. Et peut-être que dans 10-15 ans, ça sera un truc qui se sera énormément démocratisé et qui sera plus du tout un sujet de débat.
On en reparlera un peu après de ta vie d'e-sportif. Donc tu dis que tu démarres le jeu dès qu'il sort. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce jeu en fait en particulier ?
Je pense que c'est le fait d'avoir un objectif précis. Donc pour expliquer aux gens, il y a un système de classement où on démarre en étant rang 25 et on monte de plus en plus, donc jusqu'au rang 1, et après il y a le rang ultime qui est le rang légende. Et avoir cet objectif-là, me dire j'ai un but, même sans parler de compétition, juste jouer contre d'autres joueurs en ligne, mais me dire que je peux atteindre un but et faire partie des meilleurs, c'était un truc qui me motivait. Je jouais pas énormément au tout début parce qu'il y a un système de paiement qui est mis en place dans le jeu, donc c'est un jeu de cartes, donc il faut payer pour avoir les cartes, etc. J'étais en terminale à cette époque-là, du coup j'avais pas forcément les moyens d'avoir toutes les cartes et de pouvoir jouer comme je l'entendais.
Ouais.
Et du coup je jouais de temps en temps, mais sans être très très fort. Et une fois que j'ai eu mon bac, c'est là où j'ai commencé l'été. Et n'ayant pas grand chose à faire, c'est là où j'ai commencé à plus m'investir et j'ai atteint ce fameux rang légende. Et du coup, une fois que t'y es, il y a un classement au rang légende et pareil, le but c'est de descendre en étant premier légende.
Ouais.
Du coup, t'as toujours un but à te fixer. C'est vraiment ça, cet esprit de compétition qui m'a motivé.
D'accord. Et tu faisais encore du sport à l'époque ?
J'ai arrêté le judo à la fin de la terminale.
Ok, d'accord. J'avais pas. Tu jouais pas au basket aussi ou t'es fan de basket, non ?
J'aime beaucoup le basket, ouais. Okay. Ça fait pas si longtemps que ça. J'ai jamais joué non plus. Tu vois, encore un truc que j'aime bien regarder sans forcément pratiquer. Je suis tombé sur la NBA par hasard. C'est marrant parce que c'est pareil. C'est en regardant des vidéos de YouTube, genre dans les suggestions qui, sans forcément de raison, avec des mecs qui parlaient, qui faisaient un talk show sur la NBA.
Ouais.
Et ça m'a pris. Du coup, j'ai regardé, j'ai écouté. Je trouvais les mecs plutôt intéressants. Et quand t'écoutes des gens intéressants, le sujet le devient, là.
Ouais.
J'ai un peu ce mode de pensée-là. Et ça m'a donné finalement envie de suivre. Et du coup, ouais, j'ai commencé à pas mal suivre. C'est un peu compliqué. J'ai cru comprendre que toi aussi tu suivais les matchs à 3-4 heures du matin quand tu travailles le lendemain. C'est pas un super bon plan. Mais quand je peux me permettre d'en regarder, j'essaye, ouais.
Oui, parce que tu peux te permettre d'avoir une vie un peu décalée. On en reparlera. Encore une fois, on en reparlera un peu après. Tu peux te lever peut-être parfois un peu plus tard en fonction de ton planning, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Non, moi, ce que je fais, c'est que je me suis acheté le League Pass, là, et que, en fait, je me choisis une équipe, un match par jour, et en fait je regarde le dernier carton en me levant.
Ok, bah c'est pas plus mal en vrai, parce que ce qui est frustrant, c'est quand tu regardes le début du match et qu'il t'arrive vers 3h du matin et que tu commences à t'endormir,
ouais,
tu rates le dernier carton, alors que c'est le moment le plus intéressant, donc
exactement.
C'est peut-être pas plus mal comme strat en vrai.
Et puis j'essaie de, en fait je vais voir le dernier carton, si le dernier carton il y a trop d'écart, je suis ok, c'est relou, le match il est plié, ça n'a aucun intérêt. En revanche, si au dernier carton c'est encore serré, si tu veux, je me dis ok, je regarde le dernier carton. Voilà, c'est ma petite stratégie que j'ai élaborée.
Non, franchement c'est pas mal, hein,
au fil des années pour gagner un peu de temps, parce que sinon j'ai pas le temps de regarder tous les matchs, quoi.
Ouais, si tu regardes en direct, t'as les pauses pub, les machins, tu finis jamais. Hein.
C'est d'une longueur infinie. Ça dure, le match, il dure 2h30 en live, alors que je pense qu'un coupé des pubs, etc., il dure plutôt entre 1h15 et 1h30, quoi.
C'est ça. Ouais.
Donc c'est sûr que tu gagnes pas mal de temps. Bref, pour revenir à Hearthstone, donc oui, tu démarres pendant l'été de ta terminale, c'est ça ?
C'est ça.
Alors déjà, est-ce que t'as eu ton bac ? T'as eu un bac S ? Comment ça se passe dans ta vie, scolairement ?
J'ai jamais été un mauvais élève, pour le coup. J'ai toujours été quelqu'un d'assez paresseux. C'est celui qui se repose sur ses acquis, on va dire. J'ai ce côté un peu grande gueule ou un peu insolent. Du coup, les profs, c'était pas forcément super. Ça se passait pas super bien, mais les résultats étaient là. Du coup, ça allait. Et oui, j'ai eu un bac S mention bien, il me semble. Et du coup jusqu'à la terminale, vraiment ça, j'avais pas trop de soucis. Et par contre, grosse erreur, j'ai décidé de faire médecine une fois mon bac S en poche. Et ça a été un problème parce que je pense que du coup, vu le mode que de fonctionnement que j'avais, c'était la fac, c'est pas du tout un truc qui me correspondait. J'aurais dû faire un truc plus comme une prépa ou autre où t'es vachement encadré, et tu peux pas forcément, t'as pas de liberté. On te dit de faire un devoir, tu le rends pas, bah t'as une sanction. Et le côté fac où d'un coup tu passes d'un truc très encadré au lycée où on te dit débrouille-toi et tu dois travailler à fond, j'avoue que c'était pas forcément un truc qui m'a bien convenu. Et du coup, c'était pas très brillant, on va dire.
Pourquoi t'as voulu faire médecine?
Je sais pas, c'était ce côté un peu en essayer d'aider les gens au quotidien, essayer de voir que ton action, ton travail au quotidien a un impact. Tu vois, ça me parlait vraiment pas de me dire bah je travaille dans un bureau derrière un ordinateur. C'est un peu égoïste parce que c'est juste qu'en soi, quand tu travailles, peu importe ton métier, finalement à terme, ça sert à aider les gens. C'est peut-être voir directement l'impact que ton travail pouvait avoir. C'est un truc qui me parlait beaucoup.
Ok. Donc j'imagine que tu plantes ton année de médecine, c'est ça? Bon, déjà de
c'est
base.
C'est ça, ouais. C'était pas. Bah, en fait, le truc c'est qu'il y a aussi un côté bon, c'est un peu cliché, mais il y a le côté peine de cœur où je m'étais fait larguer. Ah. Et ça faisait quoi, 1 an et demi, 2 ans qu'on était ensemble. Du coup, j'étais triste, j'avais pas forcément la tête à travailler. Tout ça mélangé, ça fait un cocktail détonnant qui, ouais, ne m'a pas donné des bons résultats, disons.
Et comment ça se passe alors? Tu te dis que tu vas faire une deuxième année ou enfin, en tout cas une deuxième première année?
Je jouais un peu encore en parallèle, donc j'avais pas participé à des tournois à proprement parler. Je jouais et je m'étais fait un petit nom au sein de la communauté française.
Ah ouais, parce que en fait pendant ta première année de médecine, tu continues à jouer Hearthstone.
C'est ça. Et ça pour le coup, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. C'était vraiment pas une bonne idée. Et ouais, non, du coup, c'est...
Je pense pas que ce soit recommandé par les gens.
Non,
qui,
clairement.
Qui
quand les gens, me demandent quel parcours j'ai fait, je leur dis, ne faites pas la même chose. C'est clairement pas un bon plan. Et la fin d'année arrive, du coup, le début du premier semestre de l'année suivante commence, et je suis vraiment entre deux chaises parce que j'ai une proposition, justement, à ce moment-là, d'une équipe pour me recruter, du coup, qui signifierait salaire, etc.
Tout de suite, alors, vraiment?
Ouais, c'était, à la fin de ma première année de médecine. Okay. Et là, j'hésite. J'avais fait déjà un petit tournoi où j'avais fini deuxième, et du coup, c'est peut-être pour ça. Et j'hésite parce que du coup, c'était pas un très gros salaire. Je saurais plus dire exactement le montant, mais c'était un petit truc, et c'était pour mettre un premier pas dedans. Et je me dis non, je peux pas vraiment me le permettre.
Mais attends, tu vas un peu vite parce que en vrai, entre non mais c'est pas grave, c'est juste qu'on a le temps, donc je me permets de te dire. J'essaie de faire le lien entre le gars qui joue qui découvre Hearthstone pendant son année de terminale, qui s'y met un peu plus sérieusement pendant l'été et qui, si je me trompe pas, tu deviens légende pendant l'été pour la première fois, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Et en fait, donc après t'as une année complète. Comment tu fais pour te retrouver? Parce qu'il y a quand même une différence entre jouer toi dans ton coin et puis décider à un moment donné de te mettre dans un tournoi, tu vois.
Ouais, c'est vrai. C'est pareil, en regardant des vidéos de mecs qui faisaient des tournois, justement, je me dis, bah tiens, c'est toujours cet esprit de compétition qui me motive.
Okay.
Je me dis, bah tiens, il y a des tournois, je pourrais me mesurer à des gens vraiment solides, et c'est un truc qui me motivait. Donc c'était pas des tournois en physique comme on peut avoir de temps en temps, c'était plus des trucs en ligne.
Ouais.
Et je me dis, bah pour progresser, je peux pas progresser tout seul dans mon coin, il faut justement que j'essaye de rencontrer des gens en ligne avec qui je peux jouer. Donc je vais sur des forums qui existent, je saurais plus te dire les noms,
ouais.
Des trucs qui existaient à l'époque. Il y a une équipe qui avait l'air sympa avec des gens où on discutait pour s'entraîner, etc. T'avais des heures d'entraînement, bon ça c'était plus ou moins respecté. Et je commence à m'entraîner avec eux, je gagne des petits tournois en ligne. Et il y avait je crois que c'était à l'été du coup, l'été 2015 je dirais, où il y avait un tournoi sur Lyon où je me suis rendu. Et c'est là où j'ai fini deuxième et du coup c'était un peu le début de ce qui m'a fait connaître.
Et t'as cette équipe qui vient te proposer, c'est qui, ouais, à l'époque comme équipe?
C'est Melty, c'est le site d'actualité un peu, ouais, jeune, etc.
Ok. Qui avait monté, alors je pense que
qui avait monté une équipe e-sport. En fait, voilà. le patron de Melty était un gars assez jeune.
Ouais, Alexandre Malch.
Exactement, ouais.
Que je connais.
Tu le connais?
Ouais, je connais un peu, ouais.
Il est très cool pour le coup. J'ai pas mal discuté avec lui. C'est un gars très intéressant. Et ce mec était passionné e-sport et c'était vraiment son idée. C'était, il se disait, j'ai un média qui est destiné à un public assez jeune. C'est un truc qui est en essor, qui est en plein essor et qui peut justement intéresser les plus jeunes. Donc il essayait, son but c'était vraiment d'essayer de mixer un peu les deux mondes. C'était compliqué parce que c'est pas forcément le même public. C'est en effet des publics jeunes, mais pas les mêmes du tout. Le public de Melty et le côté e-sport, ça fait pas forcément Bon Ménage. Donc ça n'a pas été un franc succès, je crois que ça a duré un an. Mais c'était un projet assez cool. Donc, comme je te disais au début, j'ai refusé la proposition.
Ok.
Et finalement, je suis invité à un tournoi à la Paris Games Week. Donc c'est un gros salon de jeux vidéo qui a lieu en octobre tous les ans, qui réunit Porte de Versailles, donc qui réunit énormément de monde. Je suis invité à ce tournoi-là et je crois que c'était 1000 ou 1500 euros. Je crois que c'était 1000 euros et un téléphone à gagner. Et j'ai gagné okay. le tournoi. Donc ça, et là, je me dis, bah, c'est trop bête. On me repropose du coup de me recruter. Je me dis, c'est trop bête. Clairement, ça marche pour moi. Donc j'ai envie de tenter le coup. Au pire, bah, j'avais à l'époque 19 ans. Je me dis, bon, bah, je prends le temps d'essayer. Si ça passe pas, tant pis. J'aurais fait un an de break et ça arrive donc. La vie de beaucoup d'étudiants, finalement.
Ouais, ouais.
Et du coup, bah, je tente et je rejoins Melty à ce moment-là.
Ok, donc tu es en échec là à l'époque en médecine, c'est ça ?
C'est ça.
Et donc tu te dis, bah, je vais faire une pause. Donc tu fais pas de deuxième première année, c'est ça ?
Je m'étais réinscrit, mais j'y suis pas allé. Donc.
Et c'est là que tu te lances un peu, mais donc un peu par hasard, non ? Dans une carrière ? C'est marrant.
Ouais, c'est vrai que quand tu discutes avec certaines personnes, t'es vraiment un objectif, tu vois, parce qu'à l'époque, il y a un autre jeu, un des jeux les plus populaires, voire le plus populaire, League of Legends actuellement, et c'était un peu en avance déjà. Donc, t'avais des tournois qui étaient plus structurés, avec des ligues où t'as des grosses productions, des caméras de partout. Et du coup, les gens, en voyant ça, se disaient, bah, peut-être que League of Legends, j'ai raté le train, mais il y a d'autres jeux qui arrivent et j'ai envie de devenir professionnel. Moi, ça a vraiment été par hasard, c'est juste parce que j'aimais beaucoup le jeu et que, encore une fois, j'ai cet esprit de compétition qui m'a poussé à essayer de faire partie des meilleurs. Et j'ai l'impression quand même que c'est plus souvent comme ça que ça marche, de faire un truc qui nous plaît. La motivation sera quand même beaucoup plus importante que si ton but juste c'est d'être connu ou de vivre de ça, quoi.
Je pense que c'est un bon calcul d'une manière générale dans la vie.
Oui.
En tout cas, apparemment, les gens qui sont dans mon podcast, ils font plutôt ça que de oui, chercher à être connu. C'est pas forcément un objectif en soi. Sinon, tu peux faire de la télé-réalité et tu vas être connu, quoi qu'il arrive. Après,
j'avoue que ce n'est pas forcément quelque chose qui me branchait beaucoup.
Un objectif.
Non, pas vraiment.
Ok, donc tu fais pendant une année, c'est ça, chez Melty. Et comment ça se passe tes premiers pas alors sur la scène Hearthstone française ?
Ça se passe pas trop mal sur les tournois français. Justement, j'étais à cette époque-là, j'étais connu comme le mec qui avait des très bons résultats en France. Et par contre, le problème, c'est que bah du coup, t'as des tournois qui sont des petits tournois, on va dire, en France. Et derrière, t'as des gros tournois un peu partout à l'étranger. Du coup, on est allé à Austin cette année-là. On est allé à Valence et à Jönköping. C'est une petite ville en Suède. Et ça se passe pas bien pour moi. J'ai du mal à gérer la pression. Bah, mine de rien, quand t'as 19 ans. Quand tu vas sur des gros tournois comme ça, t'es entouré de plein de gens. C'est pas facile à gérer. C'est le côté mental est un truc vraiment très présent dans les sports, comme le sport traditionnel. Et je pense que c'était vraiment juste un truc mental où je me disais, bah, c'est, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de trucs et j'arrivais vraiment pas. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas une grande réussite. Et il y avait aussi le côté personnel où c'était compliqué. Et c'est un truc où, avec du recul, je m'en suis rendu compte. Sur le moment, c'était évidemment bizarre. Mais quand t'es un môme de 19 ans et que tu n'as plus aucune contrainte, donc c'est-à-dire que tu te lèves quand tu veux, tu fais ce que tu veux, ton métier, concrètement, c'est de jouer aux jeux vidéo, c'est très difficile de se structurer et au quotidien d'avoir un rythme sain. Et du coup, je jouais beaucoup, je voyais moins mes potes, je mangeais moins bien et j'ai perdu beaucoup de poids. Je pense qu'à l'époque, maintenant j'en fais 80, à l'époque j'en faisais 60, 65, un truc comme ça.
Wow, c'est beaucoup, beaucoup
de poids. Ouais, oui, j'avais perdu beaucoup de poids et tu vois, t'as le côté aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y avait, du coup, j'habitais à l'époque chez mes parents.
Ouais.
Et il y a mes parents qui se disaient, bah, j'avais négocié avec eux, du coup, cette année de césure où je me lançais là-dedans, mais mes parents me voyaient comme ça et c'est sûr que d'un point de vue extérieur, ça doit faire peur de voir son môme qui perd du poids, qui voit plus ses potes, qui joue énormément. J'avoue que ça devait un peu leur faire peur. Moi, sur le moment, tu sais, quand t'es dedans, bah, tu vis ton truc à fond, t'essayes de devenir le meilleur, tu joues beaucoup pour. Mais faut pas oublier ce truc-là d'essayer de vivre sainement. C'est un peu cliché, mais.
Ouais, bah si.
D'essayer vraiment d'avoir juste un rythme de vie, quoi. Et parce que des fois, t'as des tournois, en gros, qui sont en ligne, et du coup, qui se jouent sur les horaires américains, et du coup, bah, tu joues de minuit à 7 heures du matin, et du coup, t'es décalé pour le restant de ta semaine, etc. Et c'est pas jouable, en fait.
Ok. Et donc, ouais, donc, comment t'as fait pour te sortir de cette mauvaise passe?
En vrai, j'appellerais pas ça une mauvaise passe parce que je pense que ça a quand même été une année assez bénéfique pour moi de voir une expérience professionnelle parce que mine de rien, Melty restait une entreprise donc t'avais certains codes à respecter et c'était un truc qui m'a fait du bien parce que quand t'es le petit casse-couille à qui jusque-là tout a réussi et que bah tu te prends des baffes que ce soit au niveau des tournois ou au niveau du monde du travail quand t'es confronté à un patron strict, bah tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas lui parler comme tu veux. Donc ça je pense que ça m'a donné une bonne expérience, ça m'a fait du bien.
T'as pris des petites claques dans la tête, c'est ça?
C'est ça ouais, c'est juste bah se rendre compte que bah t'es pas le centre du monde et que tu peux pas être insolent, un petit con comme tu l'as été au lycée. Et juste grandir, quoi, et pouvoir travailler avec des gens sans être insupportable. Je pense que c'était une bonne expérience de ce point de vue-là. Et la fameuse année que mes parents m'avaient fixée se termine. Melty, en plus, ne voulait pas renouveler le contrat. Comme je te disais, ça a duré un an et après, ils ont plus ou moins fermé boutique.
OK.
Et du coup, je dois trouver des études à reprendre. Et j'avoue que là, c'était un peu la panique du côté de mes parents parce que j'ai pas mal procrastiné. J'étais en mode, bon, bah, je verrai demain, j'essaye de trouver une autre opportunité. J'avais pas envie de reprendre mes études, mais comme je te l'ai dit, tu vois, quand t'as fait un an totalement en liberté et que tu pouvais faire ce que tu voulais, repartir sur les bancs de la fac, j'avoue que c'était pas forcément un truc qui me tentait énormément.
T'avais des envies particulières de filière à reprendre, des idées de métier derrière ou?
Il y avait vraiment pas grand chose, donc je suis allé par défaut. Vu que j'ai fait S, j'aimais bien les maths. Je me suis dit bon, je vais aller en fac de maths. C'était vraiment le choix par défaut. Je me rappelle en plus, je suis allé un peu au dernier moment. J'ai dû aller voir le doyen de la fac et tout, lui faire une lettre de motivation pour pouvoir m'inscrire, etc. Et c'était vraiment ouais, juste parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais comme beaucoup d'étudiants finalement, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent se retrouver dans ce que je dis. Tu dois trouver un cursus qui te plaise ou non, mais il faut en trouver un, quoi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et du coup, finalement, je commence la fameuse fac de maths, tout en continuant à jouer Hearthstone en parallèle. Et je crois que c'était au mois d'octobre, mois de novembre, la fameuse PGW.
Ouais.
Où cette fois, je finis deuxième.
Donc PGW, Paris Games Week.
Ouais, c'est ça. Paris Games Week, pardon. Où je finis deuxième. Il y avait un autre gros tournoi où j'ai terminé premier. Et encore une fois, t'as cette petite voix dans un coin de ta tête qui te dit, t'es quand même doué pour ce truc-là. Ça serait bête de pas en faire. Mais j'avais fait cette promesse avec mes parents de me dire, bah, c'était un an et derrière, on voyait. Et du coup, je continue les études. Le semestre se passe plus ou moins bien parce qu'encore une fois, essayer d'allier un niveau élevé à des études, c'est pas évident. Du coup, bon, j'étais aux alentours de la moyenne, pas plus, quoi. Je faisais le strict minimum. Et à ce moment-là, du coup, ça doit être, du coup, attends, 2017, je dirais. Ah, c'est ça, ça doit être début 2017. Je suis recruté à nouveau par une équipe qui s'appelle Millennium, qui n'existe plus non plus. J'ai l'impression que là où je passe, les équipes trépassent.
Mais qui était à l'époque une très grosse équipe française.
C'est ça, qui était une très grosse équipe française qui venait de perdre tout leur roster de joueurs Hearthstone, qui s'était émancipé de Millennium pour fonder leur propre équipe qui s'appelle Arma Team du coup. Et du coup, les gens de Millennium avaient besoin de quelqu'un et ils me recrutent à ce moment-là. Et du coup, bah toujours pareil, j'essaye de joindre un peu ce monde e-sport duquel j'ai du mal à me détacher avec la vie d'un étudiant un peu plus classique.
Juste pour avoir une idée, pour garder un bon niveau et être, enfin, et en fait, finir légende là où tu veux. Donc terminer, en fait, en gros, on l'a pas expliqué, mais tous les mois,
oui,
le classement est remis à zéro. Et donc tous les mois, l'idée c'est de revenir légende. il faut jouer combien d'heures par jour pour garder un bon niveau?
Je saurais pas dire exactement. Pour atteindre le rang légende, c'est pas forcément le truc le plus complexe. Après, il y a le classement légende au sein même de ce rang-là. Et du coup, derrière, il faut finir parmi les 100 premiers européens, 50 premiers européens, etc. Et c'est là où c'est un peu plus complexe, parce que si tu finis parmi le haut du classement, tu te qualifies pour des compétitions à l'échelle européenne. Et là, c'est encore des joueurs encore plus forts, donc t'as encore plus besoin de t'entraîner, etc. J'allais dire, c'est un cercle vicieux. C'est peut-être pas le bon terme, mais c'est ça. C'est vraiment, si tu veux jouer et être fort, du coup, ça t'oblige de jouer encore plus pour être encore plus fort, etc.
Enfin oui, c'est un cercle vicieux ou vertueux, c'est comme tu veux.
Oui, c'est ça. Ça dépend la façon dont tu le vois, quoi.
Ok, donc tu te lances dans cette équipe là, Millennium, et en même temps tu continues tes études. J'imagine qu'à un moment donné tu vas arrêter.
C'est ça. À la fin de l'année, je fais encore des tournois par-ci par-là au cours de l'année. À la fin de l'année.
Pardon. Comment ça se passe la discussion avec tes parents?
J'avoue que c'est assez flou à ce moment-là. J'étais pas très proche de mes parents à ce moment-là, et du coup c'était en mode, bah mes parents me disaient, tant que tes résultats sont ok à la fac, nous ça nous dérange pas que tu continues. Parce qu'ils voyaient que c'était, mine de rien, ils voyaient que c'était ça qui me plaisait et qui m'intéressait. Et c'est vrai que c'est dur de se dire totalement, bah tu empêches ton enfant de faire ce qui lui plaît, quoi.
C'est sûr.
En plus, quand t'as un revenu derrière. C'est un,
oui,
un peu dommage.
Tu gagnais des sous là pour le coup?
On avait, là je peux te dire, je crois que c'était environ 500 € par mois du coup. Et j'avais fait un deal justement avec Millennium en leur disant, bah moi vraiment j'ai envie de continuer mes études en parallèle. Donc j'étais payé 500 € quand on allait dans des événements en France ou à l'étranger. Ils nous payaient les repas aussi, ils nous payaient le déplacement et les repas. Et à côté de ça, je pouvais quand même aller à la fac. Donc le deal était plutôt cool en soi.
Oui, c'était un job étudiant un peu
plus on va dire.
Un peu sympa quoi.
Et du coup, la fin de l'année arrive et à ce moment-là, il y a un des fondateurs de Armateam qui décide de partir de la boîte. Donc la fameuse Armateam dont on a parlé un peu plus tôt. Il faut quelqu'un pour le remplacer. Et là, on me demande si ça m'intéresse. Et ça, c'est un job tout à fait différent, parce que on a pas mal parlé de là jusqu'à présent du côté joueur et c'est à fond sur les compétitions, etc. Mais là, Armateam, c'est une boîte qui, donc, comme on en parlait au début, qui elle est orientée vers le commentaire de tournoi, le fait de diffuser ses parties en direct, essayer d'interagir avec les gens sur Internet, etc. Vraiment proposer de l'entertainment, tout simplement. Donc ça c'est vraiment un boulot à part entière, là où le boulot de joueur pro, bah en soi, c'est toi qui te fixe tes heures d'entraînement, etc. T'as pas de patron sur toi. Là, vraiment, j'ai des heures où, comme si on était à la télé, où de telle heure à telle heure, je fais mon émission.
Oui, et puis c'est des compétences en plus complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y a des très bons joueurs Hearthstone qui sont des piètres streamers et vice-versa.
Exactement, ouais, parce qu'il y a ce côté où tu dois être à l'aise à l'oral, tu dois réussir à rebondir en discutant avec les gens, continuer à être intéressant. Tout en jouant au jeu, et c'est pas forcément évident. Et du coup, j'ai cette opportunité là. J'avais le sentiment que c'était un job qui pouvait me plaire, parce que bah, je pense que les gens l'ont ressenti. J'aime bien parler, je suis plutôt à l'aise, etc. Et du coup, j'accepte la proposition. Et là, il y a eu la fameuse discussion avec mes parents.
Oh.
Et c'était compliqué parce que ma mère, j'avais la boule au ventre. Je me rappelle, bon, je vais au restaurant avec ma mère. Et on va manger dans une pizzeria et j'ai rien mangé du repas parce que j'osais pas lui parler, j'arrivais pas. Et à la fin, elle me demande, mais elle dit, mais il y a un truc qui va pas, je sens que ça va pas, et je lui dis. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vois que t'es pas heureux en allant à la fac, que ce que tu fais en jouant aux jeux vidéo, c'est un truc qui te tient à cœur, c'est ta passion. Si tu peux réussir à être indépendant financièrement et à faire ce qui te plaît, ben vas-y en fait. Et elle pouvait pas vraiment m'en empêcher. Si, en soi elle aurait pu, mais elle a compris que c'était ça qui me plaisait à ce moment-là et elle m'a juste autorisé. Mon père, ça a été un peu plus compliqué, hein. Mon père, déjà, il avait eu une grosse période où l'époque Melty, où il avait vu que j'avais arrêté mes études, je crois qu'il m'a pas parlé pendant 6 mois.
Oh. Ah ouais.
Ouais, ça a été très compliqué, hein. Je me rappelle, je suis né en début février, du coup, ça correspond à un peu cette période-là. Je me rappelle d'un anniversaire où il m'a pas adressé la parole.
Oh là là. Mais il te faisait la gueule parce que il avait la sensation que t'étais en train de rater ta vie, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est pas, bah, j'ai pas envie d'utiliser le terme brillant, mais j'ai toujours été très bon scolairement parlant.
Ouais.
Et mon père, comme je le dis, mes parents avaient des ambitions, que ce soit pour ma sœur ou moi. de faire des grandes études, tu vois, c'est de dire, bah, comme je te disais, quand j'étais petit, on m'amenait au musée, au ciné, au machin, ils avaient vraiment envie que je m'ouvre à plein de cultures, et leur but vraiment, c'était, je vais pas dire d'être un énarque, tu vois, mais c'était de faire des études importantes. C'était vraiment leur objectif pour nous. Et quand tu vois ton enfant derrière, qui fait quelque chose comme ça de très obscur ou auquel tu ne peux pas t'identifier parce que ça n'existe tout simplement pas pour eux à leur époque, bah, ça ne rime à rien. C'est compliqué.
J'imagine. Et puis, bah oui, parce que en plus, alors non seulement joueur d'e-sport, ok, mais en plus Hearthstone qui est quand même pas, comme tu disais tout à l'heure, l'un des plus gros jeux sur la place, encore moins, enfin, j'imagine à l'époque, c'était encore moins connu qu'aujourd'hui. Ça peut leur faire bizarre, j'imagine, quoi, tu vois, de se dire que,
ce côté-là, ça, c'était pas forcément un argument pour eux parce que ils connaissaient pas du tout le monde des jeux vidéo, donc j'aurais pu leur dire que j'étais un joueur professionnel de Pong ou de Tetris, tu vois, ça leur aurait pas parlé, c'était juste le fait d'être un troubadour, on va dire, qui leur plaisait pas tant que ça.
C'est l'une des raisons pour lesquelles tu avais fait médecine aussi, c'était pour faire un peu un métier brillant aussi, quelque part?
C'était ça, ouais, c'était de se dire, bah, c'est, mine de rien, c'était des études qui sont aux yeux des gens assez cotées, on va dire. Et c'était un peu ce côté-là où je me dis, bah, réussir médecine, aux yeux de la société, mine de rien, c'est un sacré accomplissement. Donc il y avait peut-être en soi ce côté-là aussi où j'avais envie de briller un peu par les études que j'aurais pu faire.
Ok. Et donc tu finis par affronter ton père, c'est ça?
Compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. J'avoue que ça remonte un peu. Du coup, je me rappelle plus exactement.
Ouais.
Il a pas super bien pris la chose. Ça a été moins violent que la première fois, mais évidemment, ça lui faisait pas très plaisir, quoi.
Ok. Et toi, de ton côté, tu le vis comment? T'as cette sensation aussi de te dire, bah, en fait, tant pis, il se rendra bien compte un jour ou l'autre, ou alors c'est compliqué pour toi aussi de tuer le père quelque part, parce que c'est un peu ça, quoi. J'étais émancipé.
Non, pour le coup, j'étais vraiment en mode, bah, moi, je sais que c'est un truc qui me plaît, on va voir combien de temps ça durera. Si ça dure longtemps, tant mieux. Si j'arrive à être bon là-dedans, tant mieux. Et au pire, bah, je reprendrai mes études. C'est un truc que j'envisageais de très loin. Mais je me disais, bah, potentiellement, on fera ça. Mais clairement, c'était le fait que mon père et que mes parents soient pas forcément d'accord, c'était pas forcément un truc qui m'a freiné outre mesure.
D'accord. Ok. Bon, alors donc tu te lances dans l'aventure Millennium en tant que streamer, donc c'est ça, enfin streamer slash joueur,
ouais,
de ce fait-là.
Ouais, du coup Arma Team, on arrive et c'est ça, c'est le côté pareil, un peu genre streamer. Je crois que j'avais mon contrat avec Millennium qui courait encore sur quelques mois, donc au début j'étais un peu hybride entre les deux. Je jouais pour la structure Millennium et je streamais pour Arma Team du coup. Et derrière, finalement, à la fin de mon contrat, je rejoins Arma Team, je signe du coup mon CDI le 20, je crois, aux alentours de fin décembre 2017,
17,
je dirais. Et du coup, premier CDI, etc. Jusqu'avant, j'étais en auto-entrepreneur. Il n'y a pas de statut précis pour genre pro ou quoi. Donc, c'est toujours un peu des trucs un peu louches, tu vois. C'est gérant de communauté virtuelle, des trucs comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de statut qui correspond. Donc, on essaye de trouver un truc proche, mais là, vraiment un bon CDI. Et je pense que c'est ça aussi qui a aidé mes parents à l'accepter, se dire, bah, en soi, un CDI, ça reste quand même quelque chose assez solide, qui est assez reconnu en France, et ça a aidé à ce qu'il l'accepte mieux.
Je pense que ça rassure plus, enfin, je sais pas comment tu l'as vécu toi ton premier CDI, mais pour moi c'est plutôt un truc de l'ancienne génération, et qu'au final CDI, CDD ou contrat ou je sais pas quoi, au final ça change pas vraiment le truc. Le seul truc que le CDI t'apporte, c'est que ça te valide aux yeux du reste de la société, non?
Oui, c'est ça. Pour le coup, j'ai pas senti personnellement un accomplissement en signant ce contrat, mais c'était encore une fois, comme je te disais, aux yeux de ma famille, une bonne chose. Donc c'était pas plus mal.
Donc tu restes combien de temps chez Arma? C'est un an, non? C'est ça,
J'arrive du coup en septembre 2017. Je signe mon contrat en CDI en décembre 2017, et on va y rester jusqu'en janvier 2019, du coup.
Ok. Quand tu dis « on », c'est que, si je me trompe pas, il y a une sorte de grand transfert, encore une fois, un grand mercato.
Un schisme, on va dire. Ça a été un peu particulier. L'année 2018, Du coup, ouais, c'est pour le coup, je pense que c'est, tu vois, je parlais d'expérience Melty qui avait été un peu compliquée parce que je m'étais un peu éloigné de mes potes, etc. Mais je pense que cette année 2018, elle était encore plus dure pour des raisons diverses, des grosses divergences d'opinion avec mes patrons. On a assez discuté du sujet sur les réseaux sociaux, etc. parce que ça a été un peu un bordel à la fin quand on a démissionné. Donc j'ai pas forcément envie de revenir dessus, mais ça a été une année compliquée. Les résultats sont en termes de compétition sont pas là. Le streaming, j'ai vraiment du mal avec ça parce que bah c'est compliqué au début, parce que c'est un métier qui s'apprend mine de rien. C'est comme un présentateur télé, ça s'improvise pas, tu l'as dit. Et c'est compliqué d'apprendre les codes, d'arriver, tu vois, bah mine de rien, ça reste internet, donc sous le couvert de l'anonymat, les gens peuvent être très durs avec toi et arriver à accepter les critiques, à faire des vannes, rebondir dessus et pas apprendre frontalement ce que les gens te disent au premier degré, etc. C'est vraiment dur.
Surtout qu'en plus.
Pardon, vas-y.
Non, mais je disais surtout qu'en plus, t'es en train de jouer et donc en fait, les gens ils sont derrière leur écran et ils commentent en direct. Par exemple, les erreurs que tu peux faire ou les mauvaises décisions que tu peux prendre dans le jeu, c'est ça aussi parfois.
C'est ça exactement. Du coup, c'est des fois en effet, tu peux faire des erreurs, mais des erreurs que tu ne ferais pas si t'étais juste tout seul dans ton coin. L'idée, c'est que quand t'es pas concentré à 100% sur ce que tu fais, que parce que tu racontes une histoire, tu racontes une vanne, etc. Bah forcément, tu fais des erreurs et au bout d'un moment, les gens qui te les ressassent, ça peut être compliqué. Le fait du coup derrière que les résultats ne soient pas forcément présents en tournoi, bah, c'est un truc qui toi te tracasse. Et derrière les gens vont te, quand ils te le font remarquer, bah c'est encore plus compliqué parce qu'on va te dire ah ouais bah finalement on t'a recruté pour que tu fasses des bons résultats et bah on les voit pas pour l'instant. C'est pas évident à encaisser, tu vois. À côté de ça, mes collègues du coup ont gagné eux deux gros tournois, un au Canada, un en France, deux différents, du coup, deux collègues différents. Et pareil, t'as ce côté-là, bah, j'étais extrêmement heureux pour eux, parce que c'est des gens que j'apprécie beaucoup, que je côtoie encore aujourd'hui. Et j'étais vraiment satisfait qu'ils réussissent. Mais t'as ce côté-là, tu te dis, bah, et moi quand, tu vois, moi je me donne à fond, pourquoi pas moi, tu vois, c'est compliqué de vraiment faire la balance entre le côté, on va dire entertainer vraiment, joueur compétitif, tu vois, essayer de trouver l'équilibre entre les deux, réussir à suffisamment t'entraîner sans pour autant te tuer sur le jeu et faire une overdose et derrière t'as plus envie de streamer, t'arrives en traînant des pieds au travail. Ça peut paraître absurde pour les gens d'entendre ça parce que finalement les gens peuvent se dire mais il fait que jouer aux jeux vidéo, je comprends pas pourquoi tu pourrais te lasser. Bah c'est toujours pareil, quand c'est ton travail, même si c'est un loisir à la base, quand t'en fais ton travail, c'est un peu plus compliqué à gérer.
Tu joues combien d'heures par jour aujourd'hui?
Ça dépend vraiment. C'est justement, c'est là où j'ai trouvé la balance, c'est de pas tout le temps m'entraîner à fond parce qu'en moyenne du coup je fais 25 heures du coup de stream, ce qu'on appelle,
par semaine,
où je fais des émissions par semaine. Après, il y a toujours des émissions à préparer en amont. Des fois, on a des discussions avec des clients quand on a une émission pour eux ou des trucs comme ça. Donc, c'est des trucs qui se voient pas forcément. Et derrière, t'as l'entraînement. C'est ça. Ça, c'est le minimum. Ce qui, pour le coup, ça, c'est en soi, c'est même pas un 35 heures. Ça, je vais pas me plaindre. Ça va. Après, quand t'as des gros tournois à préparer, quand on va, à l'autre bout du monde, tu sais que tu dois te préparer à fond parce que t'as pas envie de voyager pour finalement faire un mauvais résultat. Et là, tu montes en dehors des streams, du coup, je dirais entre 6 et 8 heures par jour, en plus.
Donc oui, forcément, je peux concevoir qu'au bout, entre 6 et 8 heures par jour, au bout de 6 ou 8 heures par jour sur le même jeu, ça peut finir par être parfois compliqué à gérer.
Ouais, c'est un peu lassant.
Comment tu fais toi pour trouver du plaisir, parce que tu disais tout à l'heure que c'était dur pour toi le stream, donc une fois que t'es passé chez Solary, donc c'est ton équipe actuelle, c'est ça?
Ouais.
Tu parlais tout à l'heure d'un schisme, c'est-à-dire que dis-moi si je me trompe, mais il y a toute une partie de l'équipe d'Arma qui a basculé chez Solary, qui de ce fait-là a créé le noyau de l'équipe actuelle, hein. Et effectivement, ça, comme tu le dis, ça fait tout un ramdam sur Internet dans le petit microcosme de la communauté Hearthstone. Mais en tout cas, toi de ton côté, comment tu fais pour, parce que aujourd'hui moi je te vois streamer, t'es l'un de mes streamers préférés, hein, je te le dis chez Solary, et en fait t'as l'air hyper à l'aise, et c'est vrai qu'à l'époque je te regardais pas chez Arma, mais je me rends pas compte en fait de ce qui a pu changer toi dans ton appréhension du stream par rapport à l'époque.
Je pense que c'est une question de mentalité liée au fait que j'ai grandi aussi, parce que ça fait du coup 3 ans maintenant que je fais ce métier-là, et clairement je suis pas la même personne à 24 que j'étais à 21 ans, encore une fois, bon, je reste un petit con, faut pas non plus tout changer, mais je pense que c'est ça en grande partie qui m'a aidé, le fait de gagner de l'expérience, tout simplement. Quand au bout de 3 ans tu fais ça au quotidien, bah t'accumules de l'expérience, tu sais ce qui plaît aux gens, tu sais comment, je disais, rebondir sur des personnes bah qui peuvent réagir en direct avec toi dans un chat, du coup bah tu sais que plutôt que de s'énerver, bon ça m'arrive quand même souvent, mais tu tournes en dérision ce qu'il a dit, tu fais une petite vanne et finalement les gens, au lieu de rire de toi, vont rire avec toi, et c'est plein de petits détails comme ça, et j'estime pas forcément encore être un excellent streamer, mais j'essaye de progresser au fur et à mesure, et ça c'est un des points forts de notre arrivée chez Solaris, c'est de travailler dans un cadre sain avec des gens qu'on apprécie, et tu ne peux que progresser dans ce que tu fais en fait. C'est clairement, j'ai employé un grand mot, bah une bénédiction. Notre arrivée chez Solaris, du coup c'était en février 2019, ça fait un peu plus d'un an maintenant, ça a clairement été un gros changement bénéfique pour moi.
Ok, et pour rebondir un peu là-dessus aussi, c'est que je vois, c'est vrai qu'il y a des streamers que je vois, et j'aime beaucoup regarder aussi Oliège, qui fait partie de ton équipe, et lui, je pense que si t'as pas l'habitude de regarder Twitch, il faut regarder ça, et je pense que parfois il s'énerve contre le chat, parce qu'il perd, il fait des mauvais choix, il fait des mauvais trucs, il est pas concentré sur son...
Ah, lui dis pas qu'il fait des mauvais choix, sinon il va encore plus s'énerver, fais attention.
Il fait des erreurs, mais parce qu'aussi il est en train de suivre le stream, et parfois c'est très drôle à voir d'ailleurs, parce que moi il finit par s'énerver aussi, et moi ça me fait marrer en fait en général, quand il s'énerve, il finit par bannir du chat certains membres qui l'énervent, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça qui est très vivant et très organique, je trouve, dans le live, quoi, qui est en fait le mec il est en train de vivre en même temps sa partie, et toi t'es là derrière ton écran, quoi.
Concrètement, c'est comme si je vais refaire le parallèle avec le sport traditionnel, c'est comme si t'es en train de regarder un match de foot, et tu vois, tu vas dire, t'as un joueur qui rate sa passe, et tu dis, oh, mais t'es naze et tout. Et c'est comme si le joueur directement recevait une notification en disant, hey, machin du 35 a dit que t'étais nul. Et finalement, c'est assez déstabilisant, en vrai.
Et surtout que vous avez quoi, en général, entre 2000 et 4000, 5000 viewers en même temps, donc ça défile aussi les commentaires, les chats et tout. Donc c'est comme si, pour revenir à ta métaphore, on était dans un stade où il y avait potentiellement les 2000 ou les 5000 spectateurs qui pouvaient te parler directement et te dire, dis donc, t'es nul là, t'as raté ton tir.
Ouais, c'est ça. C'est ce que je dis, c'est pour le coup, quand tu débutes, c'est très dur à encaisser. Après, ça dépend. Chacun trouve sa personnalité finalement. Il y en a qui en jouent, d'autres qui ignorent tout simplement, qui se focalisent sur les messages sympas, d'autres qui bah justement vont directement frontalement et ban, comme tu le disais. C'est vraiment un truc qui est sympa, c'est essayer de trouver ce qui te correspond le mieux, et derrière bah le spectateur peut ne pas apprécier ce que tu fais, mais nous le principe c'est qu'on est plusieurs du coup personnes sur une même chaîne, et du coup c'est d'essayer de fournir différentes personnalités qui peuvent plaire, tout simplement.
Ok. On parlait tout à l'heure de garder le niveau en tournoi et d'une manière générale dans le jeu, tout en continuant à streamer. C'est vrai que j'ai vu quelques-uns de tes collègues aussi dire moi je mets de côté l'aspect jeu, enfin l'aspect compétition par contre, pour mettre en avant l'aspect stream, parce qu'en fait j'ai pas le temps de ce fait-là de jouer plus que ça. Donc il y a aussi des choix à faire en tant que streamer ou de joueur, quoi.
Bah c'est ça, ça dépend ton objectif. Il y en a qui ont fait le tour, tu vois, je parlais de quelqu'un qui avait gagné au Canada, c'est Odémian, du coup un collègue avec qui je travaille encore, et qui bah lui est marié, il me semble du coup qu'il va avoir 29 ans cette année, donc il se rapproche de la trentaine. Te dire que bah tu vas jouer de 20h jusqu'à 3h du matin, bah quand tu vis avec ta femme, c'est plus quelque chose qui est possible, et quand tu joues pas énormément, c'est compliqué de garder le niveau. Donc il fait encore des compétitions parce qu'il aime beaucoup ça. Il a pas forcément les résultats qu'il avait auparavant parce qu'il a juste pas le temps à investir qu'il pouvait avoir ou pas avant, tout simplement. Donc oui, en effet, tu dois faire des choix, et c'est un excellent animateur, bien meilleur que moi, parce qu'il se concentre plus dessus, là où en effet bah typiquement je vais plus essayer de m'intéresser à l'aspect compétitif, tout en essayant de jongler avec le côté animateur.
Alors on y vient justement à l'aspect compète, parce que tu as réalisé deux très grosses perfs, on va dire, pendant l'année 2019. Donc c'était quand? C'était en août, c'est ça, Séoul?
Ouais, en août 2019, Séoul.
Donc, est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu tout l'aspect Master Tour? Parce qu'en gros, Hearthstone, enfin, donc Blizzard organise sur Hearthstone carrément des compétitions internationales, c'est ça?
C'est ça. En gros, en 2019, il y a eu trois gros tournois dans l'année, chacun avec une dotation de $5,000. 500 000 $,
oui,
pardon.
Oui.
C'est un peu plus.
Oui.
Un poil plus. Et l'idée, c'est que donc sur une phase de 2 mois, tu as des qualifications possibles en ligne. Du coup, tous les week-ends, tu peux jouer contre d'autres personnes en ligne pour arriver à accrocher une qualification qui te permet de participer à l'événement majeur. Du coup, qui se déroule dans une ville précise. On a eu l'année dernière, du coup, Las Vegas, Séoul et Bucarest.
Ok. Et donc le tournoi Las Vegas, t'as pas trop, c'était compliqué pour toi?
Las Vegas, je crois que j'ai fini, on devait être entre 350 et 400 et j'ai fini aux alentours des 100 premiers joueurs. Donc c'était pas exceptionnel.
En revanche, t'as cartonné à Séoul. Je pense même qu'on peut dire que t'as gagné, hein, très clairement le tournoi.
Ouais.
Las Vegas, si je me trompe pas, c'est en juin, c'est ça?
Donc, Las gros, Vegas, c'était en juin, c'est ça, ouais.
Donc en gros, en 2 mois de temps, t'es passé de 115e à Prums.
C'est ça, c'est un peu le côté Hearthstone où t'as de la variance, logiquement, c'est un jeu de cartes. C'est vrai qu'on n'a même pas expliqué directement, mais quand les gens me demandent un peu, je dirais que c'est un peu un croisement, on va dire, entre les échecs et le poker. Parce que t'as le côté stratégie des échecs, c'est pour ça que ça m'a attiré aussi, et t'as le côté un peu poker parce que ça reste un jeu de cartes, donc t'as une forme de variance. C'est pas forcément le meilleur qui va gagner à chaque fois, mais t'as aussi le côté bluff, etc. Et tu peux être très bon au poker comme tu peux être très bon à Hearthstone, finalement.
T'as une grosse part de, comme tu dis, de variance. Je sais pas ce que t'appelles variance, mais pour moi, t'as aussi une forme de hasard qui se joue parfois dans Hearthstone et qui peut être à la fois fabuleux pour toi en tant que joueur, mais aussi hyper cruel, quoi.
C'est ça, c'est encore un truc compliqué à encaisser. C'est par rapport à un jeu où, on va dire, je cite beaucoup League of Legends parce que c'est la référence, où généralement, bah, c'est en équipe de 5 contre 5. Concrètement, si ton équipe est meilleure, et que tu joues mieux, tu vas gagner contre l'équipe adverse. Et ce qui n'est pas forcément le cas d'Hearthstone, encore une fois, ça reste un jeu de cartes. Donc c'est un truc, quand t'es jeune, encore une fois, quand t'as la sensation d'être meilleur que ton adversaire mais que tu perds, c'est très très compliqué à encaisser. Je me rappelle, une petite anecdote, j'avais genre 5-6 ans, mon oncle me gardait, et on jouait au, je sais plus à quel jeu de société, et j'ai perdu. J'ai balancé le plateau et j'ai hurlé, sors de chez moi, t'es plus mon oncle, ou un truc comme ça. Donc, de base, je suis très mauvais perdant en plus, donc ça fait un cocktail compliqué à canaliser quand même.
Bah, ceci dit, je t'ai déjà vu prendre en live là pour le coup des bad beats comme ça, bah, donc typiquement des sales coups que le jeu te fait, parce qu'en plus c'est même pas forcément comment dire, c'est même pas forcément toi en face, c'est juste le hasard qui fait à un moment donné que le jeu t'envoie des trucs où t'étais ultra vénère, et je peux te comprendre vraiment, j'aurais été vénère à ta place, quoi.
Mais ouais, pour faire le, je pense qu'il y a eu un élément déclencheur entre Las Vegas et Séoul, c'est on avait organisé un tournoi dans nos locaux. Du coup, on a des locaux à Tours avec des bons joueurs internationaux. Et justement, j'avais réussi à battre certains de ces joueurs-là. Et je pense que c'était, j'en parlais, le côté mental et le blocage un peu. Et ça a été un peu le déclic de me dire, bah mince, finalement, ces mecs-là, ils sont très bons. Ils sont peut-être meilleurs que moi. Mais justement, l'intérêt du jeu, c'est que autant tu peux perdre contre quelqu'un qui est plus faible que toi, mais potentiellement battre quelqu'un qui est meilleur aussi. Donc certes, des fois ça peut te desservir, mais là en l'occurrence, ça m'a avantagé. Donc autant rester focus sur ce que tu peux contrôler, et essayer de donner le meilleur de toi-même, et on verra ce que ça donne à la fin. Mais pas avoir ce blocage en me disant, bah j'affronte un gros joueur, je peux pas le battre. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à Séoul. Et du coup, Séoul, en gros, le système, c'est, on arrive du coup à peu près 350 joueurs, vous allez jouer 12 matchs. Donc, et à chaque fois, on va affronter quelqu'un qui a le même score que nous. Donc au début, tout le monde est à 0 victoire pour 0 défaite. On peut affronter n'importe qui. Une fois que tu as une victoire, tu affronteras forcément quelqu'un qui a le même nombre de victoires que toi, etc. Et il fallait faire du coup 10 victoires pour 2 défaites. Donc c'est quand même pour finir parmi les 8 premiers. Et une fois qu'on est parmi les 8 premiers, on est dans un bracket, du coup un tableau, avec élimination directe, un peu comme ce qu'on peut avoir, encore une fois, je prends pas mal la comparaison avec le football, des phases de poule, et derrière un tableau avec élimination. Donc c'est un peu la même chose, sauf que au lieu d'être de commencer une compétition avec 48 équipes, on commence à plus de 350. Donc pour sortir son épingle du jeu, rien que ça, c'était un accomplissement pour moi. Je me rappelle, mon match était disponible sur internet. Du coup, j'avais des gens qui commentaient et du coup le public français qui me suivait. Et je me rappelle quand je me rends compte que je vais justement finir parmi les 8 premiers, j'ai les larmes aux yeux en fait, parce que c'est l'accomplissement, juste dans le top 8, c'est l'accomplissement d'années de travail où justement ça n'a pas payé auparavant, et j'ai jamais lâché le truc, je me suis toujours donné à chaque fois pour essayer de progresser, des fois peut-être un peu moins intensément que d'autres, mais ça a enfin payé, et c'est une sensation de fou, tu vois, de dire bordel, ça fait des années que j'essaye, que je rate, et enfin j'ai peut-être le brin de réussite, le talent nécessaire. Et ça fonctionne pour moi. Et à partir de ce moment-là, du coup, on a joué le lendemain dans un studio.
Ouais, c'est
et
ça.
Parce que c'est en Corée, il faut savoir que l'e-sport est très très développé. Et c'est quelque chose qui parle beaucoup plus aux gens. Il y a même des cours disponibles là où nous on a des cours de sport, eux ont des cours d'e-sport. Du coup, c'est un truc qui est beaucoup plus développé là-bas. Petite anecdote encore d'ailleurs, ça me fait rire parce que justement, j'étais revenu en la récompense, souvent, c'est soit une coupe avec un chèque géant, avec le montant de ce que tu as gagné. Et une fois, j'étais rentré d'un tournoi à Paris avec un chèque géant sous le bras, et je revenais de Levallois. Et du coup, il y avait des dames, bon, no offense aux gens de Levallois, mais du coup, un peu des rombières qui regardaient, et qui étaient en mode, oh, mais quel scandale, attends, ils jouent aux jeux vidéo, ils gagnent de l'argent, etc. Alors que en Corée, du coup, en revenant, j'avais le fameux chèque géant, et du coup, je devais le passer à la douane, à l'aéroport, etc. Et les gens là-bas étaient super contents, ils me disaient mais bravo, etc. Ils me demandaient de leur expliquer. Et c'est assez fou justement cette différence de mentalité, où là-bas, les gens vraiment c'est ancré dans leur culture, et du coup, ils demandent comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ils sont fiers de toi alors qu'ils te connaissent pas, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, pour moi, dans quelques années, en tout cas je l'espère, ça sera quelque chose qui se démocratise et qui pourra parler à plus de gens, parce qu'actuellement c'est que ça reste quand même un milieu assez niche finalement.
Et toi de ton côté, on reviendra un peu après sur Séoul, mais tu disais tout à l'heure que tu assumais un peu plus qu'il y a quelques années le fait d'être un joueur de e-sport, c'est ça ?
Ouais, bah mine de rien, tu vois, quand juste un exemple type, tu vas chez le coiffeur. On te demande qu'est-ce que tu fais. À l'époque, j'avais la flemme d'expliquer, peut-être parce que ouais, j'assumais moins, je sais pas trop, j'avais peur du regard des gens, et je disais bon, je suis étudiant et voilà, et tu vois la question passait. Alors que maintenant, bah j'explique ce que je fais et les gens, bah qu'ils le comprennent ou pas, c'est leur problème. Moi, j'explique ce que je fais. Si ça les intéresse, bah on a tendance à en discuter et justement, c'est plutôt cool. Si les gens sont intéressés par ça, moi ça me dérange pas d'en parler, mais je me cache plus et c'est. Je dirais pas que j'avais honte avant, mais ouais, maintenant clairement, je suis content de parler de ce que je fais et d'essayer justement que ça parle à un plus grand nombre.
Et tu reçois des moqueries encore ?
Pas vraiment, non. Justement parce qu'il y a ce côté à Séoul où finalement je gagne et c'est une forme de confirmation, tu vois. Et du coup, bah là où même ma famille, tu vois, même au-delà de mes parents, ma famille, mes oncles, mes tantes. Bah tu dis parce que j'ai gagné à peu près du coup 90 000 $.
Ouais.
Ce qui est beaucoup
d'argent.
Quand tu gagnes un tel montant, les gens peuvent plus nier le fait que c'est quelque chose qui est important en fait. Et c'est un peu dommage de juste relativiser par rapport à l'argent. Mais finalement c'est ça qui m'a aidé à être reconnu par même mes potes, des gens à qui je jouais pas aux jeux vidéo, à qui l'e-sport ne parlait pas du tout. Bah, face à ça, ils sont forcés de dire ah oui, quand même, c'est un truc qui prend de l'ampleur et évidemment, ils étaient contents pour moi.
Ok.
Et finalement, d'ailleurs, pour revenir à mon père,
ouais.
Même un peu avant, mais suite à ce tournoi-là, c'est celui qui me soutient le plus en fait. Dès que je suis en tournoi, il va regarder sur internet les résultats que je fais après match pour voir comment ça se passe, etc. Il m'envoie des petits messages quand ça se passe bien en me disant vas-y, continue, tu peux le faire, etc. Et c'est marrant que il y a quelques années de cela, il en venait à plus me parler. Maintenant, c'est encore une fois, c'est un peu cliché, mais c'est limite mon fan numéro un, tu vois.
Ouais. Bah, c'est bien qu'il ait changé d'avis, quoi. Tu vois, il y a que les
imbéciles qui ne
changent pas d'avis. Hein. après ça, tu fais Bucarest et c'est plus compliqué pour toi à Bucarest, c'est ça. Parce que, encore une fois, c'est à deux mois près.
Ouais, Bucarest, je pense qu'il y a le côté un peu où j'ai gagné à Séoul.
T'as la pression.
Je suis un peu plus détente.
Ah, ok, non, justement.
Et je me suis clairement moins entraîné. J'étais moins bien préparé, du coup j'ai fait un score de 5 victoires pour 4 défaites. Donc juste au-dessus de 50%, c'était pas exceptionnel quoi.
Et donc tu termines dans le ventre mou du classement, c'est ça?
Ouais, je devais être dans le top 70, on va dire, ça devait être un truc comme ça.
Et tu reviens très fort puisque en fait dans le dernier Master Tour là au mois de février, si je me trompe pas, juste avant le confinement, tu fais quoi? Tu fais troisième ou quatrième, c'est ça?
Il y a pas de match de départage, donc c'est troisième, quatrième.
D'accord.
Et ouais, c'est plutôt bien passé. Et là, pour le coup, j'ai senti le côté où moins de nervosité. Où avant, limite, tu trembles avant les matchs et tout par la pression. Il y a quand même énormément de pression parce que au-delà de l'argent, il y a le côté un peu juste reconnaissance auprès des autres joueurs, prouver que tu fais partie des meilleurs. Et du coup, finalement, j'ai fait un score de 8 victoires pour une défaite sur la première partie. Et derrière, j'ai perdu en demi-finale, mais j'étais quand même content parce que c'était vraiment la confirmation de mon résultat à Séoul et de prouver que finalement je peux. C'était pas un coup de chance et je peux réitérer ce genre de performance. Et clairement, c'était un truc important pour moi.
Alors, ce qui fait que si je me trompe, alors en plus, on peut peut-être juste signaler, mais en vrai, dans les 4 finalistes, il y a 3 Français.
Ouais, c'est ça. Dans les 8 premiers, il y avait 4 Français et dans les 4 premiers, il y avait 3 Français. Ouais.
Parce que c'est pas le premier tournoi où il y a vraiment pas mal de Français qui sont représentés. Comment t'expliques le fait que les Français soient si bons, à Hearthstone en particulier?
C'est vrai qu'à Séoul, pareil, il y avait 4 Français en top 8 et 3 dans le top 4. Donc c'est pareil, on réitère la même performance. Et c'est le côté où les Français sont passionnés de manière générale et encore plus sur Hearthstone. Et tu vas avoir des petits tournois où là on parlait des sommes où le tournoi c'est 500 000 dollars divisé entre tous les participants. Tu vas avoir des petits tournois en France où ça va être 1000 euros. Donc ça reste quand même une somme très importante. Ouais. Et clairement, encore une fois, gagner de l'argent en jouant des jeux vidéo, je suis très content de pouvoir vivre de ça. Mais c'est des plus petits montants. Et pourtant, tu as toujours des Français qui sont au rendez-vous, qui se donnent à fond. Et du coup, ça fait progresser tout le monde de manière générale. Quand tu as plein de petits tournois, le niveau moyen d'un joueur dans ce pays-là va forcément augmenter. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément le cas dans tous les autres pays. Okay. Que ce soit parce que les gens sont moins impliqués ou parce que Blizzard ne permet pas forcément d'organiser énormément de tournois. Ça, c'est un autre débat qu'on n'aura pas forcément. Mais du coup, c'est vraiment ça, cette passion et le fait qu'on s'implique beaucoup qui nous aide à tous progresser.
Ok. Et alors, le fait d'avoir gagné Séoul te place dans le top du top des joueurs d'Hearthstone dans le monde, puisque tu fais partie maintenant ce qu'ils appellent les Grand Masters, c'est ça?
C'est ça, du coup, on a parlé des Master Tours, maintenant on parle des Grand Masters. Du coup, c'est les 16 meilleurs joueurs de chaque région. Du coup, il y a la Chine est un peu mise à part, et sinon, du coup, on a l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Du coup, moi, je fais partie du top 16 européen. Et on va, à partir de 15 avril, on va commencer, donc j'avoue que là je commence un peu à stresser, on va faire un tournoi entre nous du coup, où derrière le premier de ce tournoi-là se qualifiera pour les championnats du monde. Donc j'ai potentiellement, on va dire, une chance sur 16 pour résumer, d'aller aux championnats du monde.
Enfin non, pas représenter la France d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres joueurs français qui font partie aussi de ces grandes basseurs, si je me trompe pas, c'est ça?
On est deux autres Français, mais c'est vrai que savoir que t'as, comme je disais, une communauté très soudée derrière toi et des gens qui te motivent, c'est un plus.
C'est quoi ton objectif en fait maintenant que t'en es là?
C'est du coup essayer de faire un bon résultat à ces fameux Grand Masters, parce que les trois derniers seront relégués. Donc c'est mon objectif, je me fixe pas comme objectif de ne pas être relégué, parce que ça serait un objectif par le bas et je pense pas que ce serait un bon moyen de penser. Ça serait de faire partie des 8 premiers, et du coup pareil, il y a ce système de play-off de tableau, essayer d'être parmi les 8 premiers pour pouvoir avoir une chance de participer aux championnats du monde. Je me fixe pas comme objectif d'aller aux championnats du monde, parce que je pense que je vais jouer contre les 16 meilleurs joueurs d'Europe, des joueurs qui sont peut-être un peu moins forts que moi, d'autres qui sont bien meilleurs que moi. Mais du coup, je pense que c'est pas un objectif vraiment enfin si c'est atteignable, mais si je le rate, je veux pas être déçu en fait. Et du coup, je pense que me fixer un objectif plus bas est plus intéressant pour moi.
Ok. Comment tu vis, toi, le fait que Blizzard, donc là, par exemple, la semaine prochaine, à l'heure où on parle, va complètement changer la, comment dire, la façon de jouer. On appelle ça la méta dans le jeu avec une nouvelle extension. Ils font ça assez régulièrement. Ça veut dire aussi que tu peux être très, très bon avec un certain deck de cartes, avec un paquet de cartes. Et puis, d'un coup, d'un seul, ton paquet de cartes avec lequel tu étais super bon, avec lequel tu t'étais entraîné pendant des mois et des mois, il finit par être complètement nul et ne plus servir. Tu le vis comment, toi, de ton côté ?
Ah, c'est pas une grande crainte, parce que, comme tu le disais, ça arrive tous les 4 mois, 3 fois dans l'année. Donc, c'est quelque chose auquel on est habitué. Et je pense que c'est plus une motivation supplémentaire, te dire que, bah, justement, si tu travailles plus, que tu t'investis plus dans ton entraînement, tu vas avoir un avantage par rapport à d'autres gens qui seront moins préparés, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Quand tu as une nouvelle extension, t'as plein de nouvelles cartes, et du coup, faut trouver les combos qui vont bien ensemble. Il y a beaucoup d'histoires de statistiques où on va faire beaucoup de matchs pour déterminer. Ça peut être idiot, mais tu vois, c'est des paquets de 30 cartes, et pour trouver la 30e carte, quand t'hésites entre deux, bah, tu vas faire énormément de games pour plus que se reposer sur l'instinct, se baser sur des statistiques et voir ce qui se met le mieux. C'est plutôt motivant de te dire que tu as une grosse masse de travail devant toi, mais que si tu la bats, bah, tu vas faire partie des meilleurs. C'est plutôt motivant, ouais.
Merci beaucoup, Théo. Ça fait une heure qu'on parle.
Bah, merci à toi. J'espère que j'ai pas été trop chiant.
T'as pas été du tout chiant. T'as raconté ton histoire. C'était trop, trop bien. Merde pour tout. Pour tout ce qui.
Merci. Ça se dit pas merci. Pardon.
Bah, comme tu veux, tu sais. Je vais mettre plein de liens pour aller découvrir, si vous voulez découvrir Solari, la chaîne Hearthstone dont on parlait sur Twitch. Puis aussi les VOD. Je mettrai notamment ta finale avec à Séoul pour voir un petit peu ta victoire. Dans les liens dans les notes du podcast, et puis aussi ton compte Twitter si jamais les gens veulent te suivre et suivre tes aventures. Et puis je mettrai aussi un lien pour si jamais vous connaissez pas Hearthstone, allez découvrir Hearthstone. Ils ont complètement refait le système pour les nouveaux joueurs. Et de ce fait-là, quand vous arrivez, a priori normalement, vous avez un peu plus de chances de pouvoir rentrer facilement dans le game, même sans payer des milliers des cents, quoi. Parce que c'est toujours un peu le nerf de la guerre.
C'est ça, ouais. Ils ont changé drastiquement de politique sur leur système financier, et maintenant c'est beaucoup plus abordable. Donc en effet, si vous êtes tenté d'essayer, c'est le bon moment pour commencer.
Ouais, c'est cool. Un grand merci à toi, Théo. C'était super.
Bah, merci à toi de m'avoir invité.
Je te souhaite le meilleur. À bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.